pussy just like me.
Intoxicated with the madness, I'm in love with my sadness, intoxiqué par la folie, je suis amoureux de ma tristesse, presque une devise pour ce groupe né il y a une trentaine d'années déjà à Chicago qui a marqué en profondeur toute une génération qui a vécu son adolescence au milieu des années 90. Les Smashing Pumpkins, c'était eux, étaient de Chicago, mais s'inscrivaient dans ce courant grunge, né dans le nord de la côte ouest des États-Unis, empreint de pesanteur, de maussaderie et d'énergie désespérée. À la source, il y a eu Nirvana, Pearl Jam avec Eddie Vedder et Soundgarden avec le regretté Chris Cornell, tous à Seattle. Mais cette lame de fond a atteint tous les États-Unis et d'ailleurs très rapidement le reste du monde. D'ailleurs, on l'a oublié, mais à ses débuts, Radiohead a été très marqué par l'énergie particulière du courant grunge ou l'auto-détestation de ce que certains ont appelé la génération X, hein, les enfants de parents hippies, souvent démissionnaires, livrés à eux-mêmes et ne trouvant pas leur place, à jouer un rôle très important. Une chanson d'ailleurs comme Creep de Radiohead en témoigne fortement. Et celle qu'on vient d'entendre aussi, Zero, qui remonte à l'année 1995 et qu'on trouve dans un double CD qui reste le sommet de la carrière des Smashing Pumpkins, Melancholy and the Infinite Sadness. Zero, zéro, eh bien c'est ce qui était inscrit sur le t-shirt que portait fréquemment sur scène le chanteur, guitariste et compositeur du groupe Billy Corgan, qui avait d'ailleurs décidé de se raser la tête vers 1996, hein, un peu avant ses 30 ans. Il représentait très bien cette génération X, abandonnée par sa mère, élevée par un père guitariste de jazz, remariée à une hôtesse de l'air, caricature selon l'intéressé de la belle-mère tyrannique. Billy Corgan était un garçon au goût classique de banlieusard américain. Il aimait le hard rock et le heavy metal, Led Zeppelin et Black Sabbath, et puis il jouait au baseball, enfin tout ça, jusqu'au jour où il a découvert des albums de The Cure et Bauhaus, dont les chansons ont donné une forme, une structure à un malaise existentiel sous-jacent qu'il n'arrivait pas à exprimer. Après un passage pour de brèves études à Saint Petersburg, hein, c'est l'ouest de la Floride, le golfe de Tampa, où il a formé un groupe entre metal et rock gothique, et bien Billy Corgan est retourné à Chicago. Voici comment il résumait les choses, répondant en 1996, donc il y a plus de 20 ans, à une interview pour Libération. « J'étais un tocard sans boulot qui voulait former un groupe. J'ai rencontré des gens, ça n'a pas marché. J'ai recommencé avec d'autres, on a été mauvais pendant 2 ans, puis on est devenu bon, on a décroché un contrat et voilà, c'est une histoire ennuyeuse. »
Yeah. France Inter, Mishka Assayas.
Seether, un extrait du premier album des Smashing Pumpkins sorti en 1991 et intitulé Geish, un mot qui désigne une sorte de guerrier doté de pouvoirs magiques. Les Smashing Pumpkins de retour ce mois-ci par la vertu d'un nouvel album, Shiny and Oh So Bright, le premier auquel depuis l'année 2000 participe l'excellent guitariste cofondateur du groupe, James Iha, à l'origine un étudiant en art graphique avec lequel Corrigan avait enregistré ses premières maquettes. Les Smashing Pumpkins, en compagnie desquels je vous propose de passer toute cette heure pour, bah, vous connaissez un peu la formule, une sorte de concert imaginaire. Alors au début, vous avez entendu dans ce titre, comme dans celui d'avant, Geek USA, extrait du deuxième album du groupe Siamese Dream, rêve si à moi, que les Smashing Pumpkins présentent une espèce de version blues psychédélique du grunge. Chez eux, il y avait, dans la voix de Billy Corgan en particulier, la fougue écorchée de Nirvana, et puis aussi ces alternances de passages tempétueux et de passages apaisés qu'on allait aussi retrouver chez les Pixies de Boston. Et puis si vous avez un peu l'oreille rythmique, vous l'avez forcément remarqué, les Smashing Pumpkins ont un batteur au jeu très libre, hein, clairement venu du jazz, Jimmy Chamberlain, qui mettait ce groupe à part. Alors, dans ces années 90, très sombres, c'est vrai, mais où ne régnait pas encore la résignation, où on se débattait encore, les quatre membres du groupe ont cumulé, alors sur un plan personnel, à peu près toutes les tares qui peuvent plomber la vie des groupes de rock. Et Dieu sait qu'il y en a. Pour commencer, Billy Corgan, c'est pas très surprenant, vous me direz, est sérieusement dépressif et se soigne par le travail et la psychothérapie. Je dirais, ça va encore. James Iha, lui, se déchire avec la bassiste Darcy Redsky, avec laquelle il forme un couple explosif. Quant au batteur, c'est un alcoolique et un drogué qui finira par se faire renvoyer du groupe. C'est dans cette ambiance chaotique que les Smashing Pumpkins sont parvenus en 1995 à enregistrer un album appelé à marquer l'histoire. Corgan avait à ce moment-là pour ambition de réaliser un double album qui soit pour la génération X à laquelle il appartient l'équivalent de The Wall de Pink Floyd. Melancholy, un jeu de mots sur melancholy, un mélancolie évidemment, Melancholy and the Infinite Sadness voit Corgan chanter de manière assez différente, plus apaisée, je dirais faussement innocente. La colère semble avoir parfois cédé la place à une sorte de détachement presque angoissant. L'instrumentation est très variée, il y a pas mal de claviers, il y a aussi un orchestre symphonique pour certaines chansons et puis pas mal de sons électroniques. Corgan a en effet décidé de prendre un virage radical. Il s'est détaché du réalisateur artistique Butch Vig, un des hommes clés du grunge, futur fondateur du groupe Garbage. Butch Vig qui vient de réaliser l'album Nevermind pour Nirvana en 91, Dirty pour Sonic Youth en 92 et Siamese Dream pour les Smashing Pumpkins en 93. Donc, Corgan se débarrasse pour ainsi dire de lui et il fait appel à deux Anglais. D'abord Alan Moulder, collaborateur du groupe My Bloody Valentine, et puis Mark Ellis, alias Flood, un des grands artisans du rock industriel de Nine Inch Nails, qu'on retrouvera aussi dans cette décennie 90 aux côtés de Depeche Mode, PJ Harvey et U2. Bullet with Butterfly Wings, un des titres les plus mémorables de cet album, Melancholy and the Infinite Sadness des Smashing Pumpkins. C'était en 1995 et ce soir, c'est sur France Inter.
The world is a vampire. Sent to drain. Secret destroyers. Hold you up to the flames. And what do I get for my pain? Betrayed.
someone will say what is lost can never be saved. Despite all my rage, I am still just a rat in a
quand les lecteurs du magazine américain Rolling Stone ont été appelés à élire la chanson qui, selon eux, était la meilleure de toute la carrière des Smashing Pumpkins, eh bien c'est celle-ci qu'on vient d'entendre qui a été élue. Elle porte un titre franchement pas terrible, Mayonnaise, en plus d'écrire ça avec un seul N. Enfin, cette chanson qui figure dans l'album Siamese Dream, sorti en 93, réunit tout ce qui a pu faire la force de ce groupe, une sorte de douceur insidieuse, hein, de style folk, striée d'éclaboussures de douleur plus que de violence, et ce lyrisme presque extatique de la guitare solo qui peut évoquer les plus belles envolées de Neil Young. Tout de suite, voici la chanson 1979, hein, 1979, l'année où Billy Corgan a eu 12 ans, la plus célèbre des Smashing Pumpkins, une sorte d'hymne à l'adolescence qui s'en fout parce qu'elle sait, enfin elle croit qu'elle est immortelle. And we don't know just where our bones will rest, to dust I guess, forgotten and absorbed into the earth below. Et on ne sait pas même où nos os vont reposer, dans la poussière je suppose, oubliés et absorbés dans la terre sous nos pieds. Les Smashing Pumpkins jusqu'à 22h sur France Inter.
Lie wide right above the street.
Very Good Trip, Mishka Assayas.
Think of me.
Ava Adore, une chanson extraite d'un album des Smashing Pumpkins qui s'appelle Adore et qui a été co-réalisé par Billy Corgan lui-même avec la collaboration de l'anglais Flood, hein, je vous en parlais tout à l'heure, et de Brad Wood. Brad Wood, le collaborateur d'une musicienne elle aussi originaire de Chicago, Liz Phair, qui a également beaucoup marqué le renouveau du rock de la seconde moitié des années 90. Juste avant, un autre titre qui s'appelait I, réalisé par Billy Corgan seul et utilisé en 97 par David Lynch pour son film Lost Highway au cours d'une scène qui se déroule dans une discothèque, un des sommets du groupe. Tout de suite, une longue séquence pour se quitter en apothéose avec les Smashing Pumpkins, ce groupe qui, comme on l'a entendu, avait plusieurs cordes à son arc. Le grunge, le metal, bon, c'était sa source, oui, mais il y avait aussi une dimension gothique, hein, la présence très marquée des sonorités oppressante du rock industriel, une rythmique très souple aussi avec ce batteur au jeu très jazz, Jimmy Chamberlain, et puis quelque chose de lumineux aussi, l'émerveillement du psychédélisme, cet envol vers le monde du rêve grâce à ces notes de guitare dont l'intensité et la puissance ont toujours été plus lyriques et poétiques qu'agressives. Quelque chose d'un Mick Jagger grunge dans cette chanson qui suit, extraite toujours de Melancholy and the Infinite Sadness, une chanson qui s'appelle 33, ce sera le début de notre bouquet final consacré aux Smashing Pumpkins, suivi d'une chanson sans titre qui a été exhumée pour une compilation de 2001. Il y aura ensuite Today, c'est une chanson de 93, que dirait-on les Pixies auraient oublié de composer et d'enregistrer. Face to face.
missing, what's the stop? What you missing? Feel alive, to be alive all around. Anyone, you know the promise, not everyone can feel wanting to feel alive, to be alive all around. Tell me how, hear me speak, let me be.
Mishka Sayas.
Killing
Tonight, Tonight, c'est ce qui se rapproche le plus d'un hymne dans tout ce que les Smashing Pumpkins ont enregistré, un des sommets de l'album Melancholy and the Infinite Sadness. C'est avec cette chanson qu'on quitte à regret ce groupe ce soir. Merci à Stéphane Ronxin qui a réalisé l'émission. Merci à Paul Percheron à la technique. Virginie Gresset à la discothèque de Radio France. Zora Ben Smiley pour le site internet. Tout de suite après les informations, vous retrouverez Laurent Goumard et son nouveau rendez-vous. Il recevra Philippe Pasqua pour Allegoria au château de Chamarandes des Versus à Saint-Ouen-le-Monde, ainsi que Sylvie Testu pour Deutsche Leland, une série Amazon. Et puis la semaine prochaine, eh bien, ce sera Nénette Cherry et tout ce qui l'entoure. À lundi.